Beginning transmission now.
Live.
En vacances.
Oui, monsieur.
Live.
Radio X.
Éric Gravel. 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 Éric Gravel.
Ce thème-là, il rentre, hein? Il est carré, ça vient. Salut Eric, ça va?
Bon matin, Dan, ça va bien, toi?
Très bien, merci. Tu vas en avoir un nouveau thème, là. On est en train... Je suis en train de faire ça.
Oh, oui, ben celui-là, il...
Oui. Ben, ça, on rentre dans une nouvelle ère à partir de, je vous dirais quoi, dans 3 semaines.
Ouais.
Et puis, tous les chroniqueurs auront leur nouveau thème. J'en ai parlé avec Dom en fin de semaine. Ah oui, on a bien ben hâte d'être rendu là. L'été achève, Eric, l'été achève.
Hey, ça passe vite.
Oui, effectivement. Je veux commencer en te parlant du sujet. En fait, c'est vendredi dernier qu'on l'a appris, Luc Poirier, avec d'autres investisseurs, qui achètent le terrain de l'usine Goodyear à Valleyfield. Et puis, les réactions sur les médias sociaux sont très, très nombreuses. Puis, on le voit, là, c'est la saison de la chasse aux riches quand il y a des annonces de même.
Oui, mais ça a commencé récemment. On le sait, Québec solidaire ont commencé à faire des campagnes de haine.
Ils diront
que c'est pas de la haine, là, mais de piger, on va appeler ça piger dans les poches des plus riches, de ceux qui réussissent mieux pour le Québec, de ceux qui payent plus d'impôts, qui en payent déjà beaucoup. Donc, ils se sont mis à mettre dans la tête de la population de chasser ces gens-là. Donc,
Puis, il y a de plus en plus de commentaires haineux. On l'a vu. Il y a du monde qui pense avoir un certain reach aussi, qui essaie de nous faire la morale là-dessus. Mais au final, c'est tout le temps la même affaire. C'est de l'envie, c'est du.
On oublie le paramètre, c'est celui que je t'ai envoyé. Si on prend juste le simple chiffre qui est réel, que tous les gens peuvent aller vérifier sur Revenu Québec. Ou 12 % des contribuables. On ne parle pas de 12 % de la population, on parle de 12 % des contribuables. Donc, c'est tous ceux qui font une déclaration d'impôt. Donc, ça inclut aussi les personnes âgées. Puis, on en parle souvent, les personnes âgées ne devraient plus payer, c'est correct, mais ça inclut un paquet d'autres mondes. Puis, 12 % payent 70 % de la facture globale de l'impôt. Et c'est là qu'à un moment donné, ce système-là, il va finir par frapper un mur parce que tu peux pas... Tout est relié à ces gens-là. Puis là, il y a un mouvement qui se fait où on décide ce matin qu'on va. Il y a quelqu'un qui fait une publication, puis il décide de cracher sur Luc Poirier, puis soudainement, il y a des gens qui l'appuient. Puis là, il y en a un autre qui décide de republier, puis dire on va cracher sur lui. Mais si on prend les paramètres dans les chiffres, puis dans le projet d'ensemble, je ne connais pas le projet, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je sais qu'il va y avoir du redéveloppement, mais ils vont détruire une partie de l'usine. Puis ils vont créer des logements. Là, le monde, naturellement, va dire hey, c'est-tu des logements abordables? C'en est-tu des pas abordables? Mais tu vois, la réaction tout de suite immédiate, c'est de. Donne-moi quelque chose, je veux de quoi. Oui, mais achetez-le le terrain si vous voulez faire pareil, si vous voulez le redévelopper. Pourtant, il va amener des emplois. Si on le voit autrement, là, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas un Patrick Morin qui va venir s'installer dans la région, qui va créer peut-être, je ne sais pas moi, 200 emplois? Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y aura pas des restaurants de plus qui vont créer de l'emploi? Ils vont avoir des logements où ils vont peut-être attirer d'autres personnes dans la région. Et la taxe de bienvenue, parce que j'entends souvent les gens dire « Ah, les riches ont les moyens de se soustraire à l'impôt, de se soustraire à payer. » C'est faux, parce que quand il y a une transaction comme ça, Goodyear va payer de l'impôt parce qu'ils ont fait un gain. Luc Poirier et sa gang vont payer une taxe de bienvenue qui est, je pense, de l'ordre d'environ 1 million. 1 million qui s'en va directement dans les coffres de la ville. Fait qu'à un moment donné, là, il faut arrêter de toujours voir ça comme système, alors qu'il y a des gens qui essaient de développer, qui essaient de contribuer. Parce que plus on les écœure, ces gens-là, moi, je l'ai fait, c'est un genre de sondage maison que tout le monde va dire qui n'est pas bon parce que c'est sur ma page, puis les gens sont tous de droite. Mais au final, les gens sont en train de se préparer à s'en aller parce qu'ils sont tannés. Ils sont tannés de travailler pour d'autres qui ne veulent pas se lever puis qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas contribuer.
Et c'est comme si ceux qui font de l'argent au Québec devaient absolument avoir le poids de ces gens-là sur leurs épaules constamment.
Exact. C'est à un moment donné, je pense que... On bénéficie d'un système scolaire qui est gratuit.
Ouais.
Puis je le sais, je l'ai dit en fait. Les gens disent il n'est pas gratuit, ça m'a coûté 500$. Good, imagine s'il n'avait pas été financé par le gouvernement, combien ça t'aurait coûté. C'est 10 000 que ça t'aurait coûté. Donc, ça t'a coûté juste 500$ pour que ton enfant aille à l'école de façon payée par la société au complet. Puis c'est parfait, ça prend des gens éduqués, ça prend des enfants, une relève, ça prend des enfants qui vont être éduqués, qui vont avoir un avenir. Mais au final, on a tous bénéficié de ce système-là. Ensuite, on bénéficie d'un paquet de filets sociaux que tout le monde a assurément un jour ou l'autre utilisé, que ce soit un congé parental, que ce soit, comme je disais, l'école, que ce soit les hôpitaux, tu étais malade, tu as réussi à te faire soigner, ça ne t'a pas coûté un bras puis une jambe. Exact, les garderies. Puis là tu arrives à travailler puis à dire « Hey, je suis capable de m'en sortir, je suis capable de me faire une vie, je suis capable de... » Là, ce qu'on voit puis ce qu'on entend, c'est des gens qui se plaignent. Puis, tu sais ce qui est drôle, sans cibler aucun commanditaire, mais même les publicités sont rendues à cibler ça. Fait que je les écoutais tantôt les trois, puis une après l'autre, puis c'était comme « OK, c'est... Hey, tu dors mal, voici ce qu'on peut faire pour toi. » Fait qu'il manque de ce côté-là de dire « Écoute, mets les efforts, les bouchées doubles, parce que c'est ce que les gens qui se sont rendus, ou ce que le Poirier, ou ce que moi, je me suis rendu. Moi, j'étais pompier avant. Pour les gens qui ne savent pas, j'étais pompier à la Ville de Montréal. J'étais pompier à la Ville de Sainte-Thérèse. Les deux en même temps. J'avais mon entreprise de construction. Je bâtissais mes maisons en plus à chaque 2 ans environ. Donc, à un moment donné, il faut mettre ces efforts-là si on veut s'en sortir. Puis si on ne les met pas, puis on fait juste se relier à « Ah, le gouvernement va nous aider », c'est là qu'on est dans l'erreur.
Oui, c'est ça, parce qu'on vit dans une terre où c'est possible pour tout le monde là, d'avoir accès à ça.
Il 100%.
Il suffit simplement, tu sais, on l'a vu, là, on le sait, il y a des pays industrialisés où ton nom de famille peut t'aider beaucoup, mais le Canada et les États-Unis, c'est pas ça. C'est ça le rêve américain.
Puis le rêve américain, si on prend, mettons, en comparatif aux États-Unis, t'as beaucoup plus de chances de rester pauvre longtemps parce qu'ils n'ont pas autant de filets sociaux. Donc, c'est sûr que oui, c'est l'opposé dans le sens que si tu réussis, c'est archi-millionnaire.
Ouais.
Versus ici, si tu réussis, tu vas peut-être dire « Hey, je me suis rendu à 1 million, mais tu vas super bien vivre avec ça. » Je veux dire, tu vas avoir une belle société. Je pense pas qu'on est... En tout cas, pour l'instant, c'est toujours pas trop violent. C'est quand même paisible vivre au Québec versus ce qu'on peut voir dans certaines villes américaines, que c'est beaucoup plus dangereux. Fait qu'on doit considérer ça, puis on doit arrêter aussi de dire « Hey, le gars qui réussit, parce que ce gars-là, là, il va finir par s'écœurer à un moment donné. » Pas parce qu'il s'attend à ce que... Moi, je m'attends pas à ce que les gens me lancent des fleurs, je m'attends pas à ce que les gens me donnent une tape dans le dos puis qu'ils me disent merci. Je m'attends juste à ce que vient pas piger dans ma poche.
Ben, c'est ça. C'est quand l'impôt tue l'impôt. Donc, quand tu commences à trop imposer ton monde, que finalement, ils décident de soit s'en aller ou encore soit exploiter au maximum les endroits où tu peux cacher ton argent. Là. Les paradis fiscaux.
En fait, c'est de dire, à un moment donné, j'ai donné souvent l'exemple, là, parce que les gens, ils s'attendent. Exemple, moi, j'ai vendu mon entreprise, ok, je l'ai dit à multiples reprises, j'ai vendu 28 millions, j'ai reçu un chèque, on a des associés, j'ai payé mon impôt, j'ai payé globalement au fil des 3 dernières années pas loin de 5,5 millions. Je n'ai plus besoin de payer d'impôt dans le sens que l'argent net, je l'ai. Oui, elle va générer des revenus, de l'intérêt, mais mettons que je dirais, là, hey, sais-tu quoi? J'en ai même pas de besoin. Je veux même pas qu'elle génère d'intérêt. Je vais juste piger dans ma poche ou même dans ma maison, puis hypothéquer ma maison, puis je vais me prendre de la dette ou je vais juste prendre sur ce que j'ai déjà payé d'impôt, puis je vais vivre de ça, puis jusqu'à mes vieux jours, puis j'aurai plus rien un jour.
Puis je vais être
Mais il n'y aura pas généré d'intérêt. C'est sûr que c'est pas ça la logique, parce que je veux créer de l'intérêt pour mes enfants. Je veux qu'eux aient un patrimoine. Je veux que ça continue. Mais il reste qu'il y a ce modèle-là où ce que les gens, ils comprennent pas, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se servent de ça, puis ils se disent ça n'a pas d'allure, mais les gens font la même chose, c'est créer de la dette. Donc, si tu as une maison qui vaut 600 000, puis tu en prends 20 000 pour faire des rénovations, tu crées de la dette. Le 20 000 n'est pas imposable. C'est juste que les riches le font à un autre niveau, c'est-à-dire qu'ils vont le faire sur un bâtiment qui vaut peut-être 5 à 10 millions, 20 millions, 30 millions, puis ils vont dire, hey, je vais prendre 3 millions dessus et créer de la dette, puis son bâtiment va payer pour. Fait que c'est ça la distinction, mais c'est, oui, t'as raison, à un moment donné, on vient qu'à cette année de dire, sais-tu quoi, je vais prendre des moyens pour éviter de payer de l'impôt parce que je t'ai écœuré d'en payer, puis je t'ai écœuré que ça soit mal géré, puis c'est ça la problématique qu'il faut jamais oublier, c'est que c'est mal géré.
Est-ce que ça se pourrait aussi qu'il y ait un problème d'éducation au niveau de la richesse des riches au Québec? Au Québec, le seuil d'entrée pour faire partie du 1% des contribuables au Québec est à 200 000 en comparaison à 700 000 ou à peu près aux États-Unis. Donc, les riches ici sont pas si riches c'est que ça. Le 1% au Québec des riches fait en haut de 200 000, ce qui est pas énorme si on compare aux
States. Les riches ici, ils se promènent en RAV4 PHEV.
Exact. Est-ce qu'on a un problème d'éducation par rapport à ce que c'est vraiment un riche au Québec?
Bien, 100% parce qu'il n'y a rien... Il n'y a aucun cours à l'école qui parle d'argent, d'économie, de budget, de comptabilité, de faire comprendre aux enfants... C'est quoi les chiffres? Parce qu'ils font des mathématiques, ils ne trouvent pas ça intéressant. Mais comment ça fonctionne, exemple, même une entreprise, ou qu'est-ce que je peux faire, ou même en tant que citoyen, qu'est-ce qui est accessible à moi, un CELI, un placement, un REER, tout ça devrait être enseigné à l'école. Alors qu'on attend dans le monde des adultes, là, finalement, c'est ton conseiller bancaire qui te le propose, puis là, tu dis, es-tu en train de m'avoir, es-tu pas en train de m'avoir? Alors que si c'est enseigné à l'école, ça serait totalement différent. Puis on est tous d'accord qu'on a tous un chum à quelque part qui dit, je suis pauvre. Puis là, tu lui dis, tu gagnes combien par année? Il dit, je fais 150 000, mais je suis pauvre. Il est pauvre parce qu'il considère qu'il n'y a pas assez pour ce qu'il gagne. Mmh. Il dit, ah, ben, j'ai juste une roulotte, puis là, je voudrais voyager un voyage de plus.
C'est ça.
Mais au final, les gens ont tout ici. Les véhicules neufs, la maison, ils voyagent. Les enfants vont à l'école, souvent à l'école privée, on arrive dans ces salaires-là, puis ils vont se considérer pauvres, mais ils ont un problème de gestion de l'argent. C'est juste ça. Fait que tout le monde a ce problème-là. En fait, le gouvernement est le pire exemple. Fait qu'imagine, le peuple fait pareil. J'ai publié un article sur une... Ils mettent le titre « Mère monoparentale de 70 000 en dette ». La fille a gagné 4 000 nets par mois. Puis t'arrives pas avec 4 000 nets parce que tu me dis que t'es monoparental. J'en connais plein. J'ai souvent des mères monoparentales
qui viennent écrire. Avec beaucoup moins que ça.
Ben, avec beaucoup moins que ça. Puis il arrive, t'as un problème de dépenses. T'as pas un problème d'argent. Fait que c'est ça la problématique. Oui, on aurait besoin de beaucoup plus d'éducation, puis on est loin d'arriver à l'objectif d'avoir des gens éduqués de ce côté-là.
Ah, je te remercie infiniment de nous avoir parlé, Eric. Je te souhaite de passer une belle semaine. T'as-tu des vacances, toi, cet été? Ou...
Oui, mais moi, je suis tout le temps quand même trop loin de mon téléphone. Donc,
tout le temps prêt à travailler. Si vous êtes bon.
Tout le temps prêt.
T'es à Québec aujourd'hui?
Oui, je m'en vais à Québec. Je peux pas dire pourquoi. Je réserve la surprise. Vous devriez voir ça sur les médias sociaux tantôt. Là,
on va checker ça. On va suivre ça. Merci infiniment. Salut.
Bonne semaine à vous autres.
Bonne semaine. Bye. Eric Gravel, à qui on parle, avec qui on ouvre la semaine chaque lundi. Il a entièrement raison. Luc Poirier s'est fait... C'est l'enfer. Ouais,
c'est fait baver, Luc, entre guillemets.
Luc Poirier, à l'époque où il faisait tous ses investissements, comme un peu en catimini, où t'en parles pas trop, ça allait bien.
Ouais.
Là, à cette heure, depuis que tout le monde connaît le nom de Luc Poirier, c'est pas pareil, pas en tout. Là. C'est plus le même gars qui a fait Occupation Double.
Beaucoup de jalousie là-dedans. Quand tu lis le texte du pseudo-humoriste, entre autres. Là.
C'est qui, lui, hein?
Je peux pas.
Simon Trottier?
Oui. Je dirais qu'il cherche un peu le follow spot, là. Mais c'est de la jalousie pure, là. De dire, ah, ben, c'est ça, étale donc ta richesse. Ben, mais je veux dire, quand t'as pris des risques, que t'as travaillé pour être capable d'investir mm-hmm. puis de faire de l'argent, tu dois rien à personne.
Ben, c'est de la jalousie, peut-être, mais je sais pas, je pense que c'est plus... ça s'inscrit dans la mouvance de gauche de « on mange les riches, puis les riches ne devraient pas exister parce que c'est pas équitable pour l'ensemble de la société québécoise. »
Ça fait partie de notre patrimoine, de notre ADN.
Ben oui.
On est né pour un petit pain, man.
C'est ça, on s'est fait exploiter par les riches, les petits Québécois, nous autres...
Voisin de Porsche, après moi, du fou et quelqu'un sortait.
Si on est né pour un petit pain, Luc, lui, il est né pour un gros terrain.
Voilà, c'est tout. Puis une collection de Ferrari. Mais pour vrai, tout part de là. Tout part du fait que si on ne savait pas qu'il y avait une collection de Ferrari, tu ne ferais pas écœurer, tu comprends?
Non, ben oui. Ça, c'est... On a parlé à sa femme, là, il n'y a pas longtemps, Isabelle Gauvin, puis ça pique encore ma curiosité. Pourquoi se mettre autant dans la lumière que ça?
Ça, c'est une autre affaire.
Surtout dans le style d'entreprise qu'il y a, ça y apporte absolument rien d'être connu de la sorte.
Et puis, ouais. Mais tu sais, si le gars, il a le goût de partager...
Ben, il a le droit, absolument, mais ça vient avec ces côtés-là aussi.
La critique québécoise.
Avec, là.
Mais la seule chose qu'il peut pas acheter, c'est l'amour du public.
Ben, Legault l'a fait.
Ben, ça n'a pas marché longtemps.
Ça prend des chèques.
C'est un amour qui est éphémère, qui est très éphémère.
Luc devrait faire des chèques à tout le monde.
Ben oui, voilà, on l'a trouvé, la solution.
Là, les gars, vous dites ça en riant, là.
Ben oui, c'est une joke.
Mais ça se pourrait qu'il y ait du monde qui nous propose des chèques, là.
Ça s'en vient.
Ça peut arriver. Là. Je vous parle maintenant du pont Gordie Howe.
Ah oui, il va être ouvert là, cette semaine.
Il va ouvrir à la fin du mois de juillet, le 27 juillet. Parce que Donald Trump, lui, il l'avait menacé de... En fait, la façon dont c'était cité, c'est que le Canada ramassait les payages jusqu'à temps que le pont soit remboursé. Parce que c'est le Canada qui l'a payé, ce Christy pont-là.
Pendant 30 ans environ.
Ouais. Mais là, ce qui va arriver, c'est que le pont va ouvrir, puis ça va être 50-50 les payages avec les États-Unis. Puis le Canada, ça va prendre le double du temps à se rembourser pour faire son pont.
c'est incroyable.
C'est fou.
Dans le deal aussi, c'était nous autres qui fixaient le montant du péage. Maintenant, il va falloir demander l'approbation du montant au state.
Ouais.
Hey, honnêtement, Carney s'est fait entuber, mais Trump, un petit bijou. On va lui donner. Là.
C'est effectivement. C'est ça où il ouvre pas.
Hey, c'était nous autres qui. On a payé le pont. 6,4 milliards, 700 millions en dépassement.
Les gens négocient avec, mais d'abord, avant de négocier, déjà, ils donnent le gros bout du bâton. C'est complètement hallucinant. Fait que oui, il va payer, on va payer pour traverser le pont. Puis il y a encore un pont où il n'y a pas de paiement. Là. Donc, ça se peut qu'il y ait du monde qui évite les paiements aussi. Ça peut être long, rembourser ce pont-là. Mais chose certaine, c'est que pour Donald Trump, c'est une grosse réussite, là, cette négociation-là. Oui. Le pont Gordie Howe qui va ouvrir le 27 juillet prochain, je ne sais pas si ça va faire pareil comme l'ouverture du pont Samuel de Champlain, c'est-à-dire du monde qui font un fil, là, qui attendent à l'entrée. Là. Le ruban, j'ai hâte que ça soit coupé, je vais peser sa suce avec les caméras de TV qui sont là pour filmer. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, le pont Samuel de Champlain, quand ça a ouvert, c'était pathétique. Là.
C'est incroyable.
Là, c'est pas pareil, ça va être pour... ils vont nous dire, regardez comment il n'y a personne pour inaugurer un pont qui s'en va où aux États-Unis.
Carney, lui, il semble dire qu'il va avoir un engouement de tel que le partage du payage va pas changer grand-chose finalement sur le net qu'on donne.
Ben oui, c'est sûr que lui, il dit n'importe quoi à partir de ce moment-là pour se sauver... pour pas avoir l'air d'un total abouti, parce qu'à la base, c'est un peu de ça qu'ils ont l'air. Là.
Ah, il est en mode
certain. C'est supposé être un fin négociateur, lui.
Ben, en campagne électorale, il l'a dit plusieurs fois qu'il allait gérer Donald Trump. Uh-huh. Que c'était le grand négociateur. Le banquier, ouais, ça paraît.
Ça fait un an et demi qu'il est là, puis s'il se présente aux élections, possiblement qu'il passera avec une plus grande majorité.
Ouais, le banquier m'a dit que Trump a dit l'offre est refusée.
Oui, ça, c'est très refusé. Mais l'article dans le National Post, je pense que ça a été relayé par Bloomberg en avant-plan. C'est un sondage qui a été mené par Nanos sur une partie de la population canadienne où on établit que 60% des Canadiens, selon ce sondage-là, sont très satisfaits du bilan économique de Carney. Et du même coup, depuis qu'on comptabilise les premières années de mandat des premiers ministres canadiens, ça fait 63 ans qu'on le fait, c'est la pire première année d'un premier ministre au niveau du bilan économique depuis 63 ans. Mais 60% des Canadiens trouvent que c'est un génie économique.
Ben, on a vendu l'idée.
Incroyable.
On a vendu l'idée que c'est un génie. Tu sais, c'est pareil comme si je te dis... je te dis, tel joueur de hockey, tu vas voir, là, c'est une machine nucléaire, t'arrives, il est pas si bon que ça. Mais dans ta tête, il a quand même été le meilleur sur la patinoire parce que je te l'ai tellement vendu. C'est ça que le monde pense de Carney. Puis, on va se le dire, les gens suivent pas tant ça. C'est fascinant quand tu poses des questions politiques dans ton entourage, à quel point tu te rends compte que le monde il s'en sac parce qu'il le regarde pas. Brookfield, c'est quoi? C'est sur le terrain où jouent les Orioles de Baltimore? Aucune idée. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Puis effectivement, il a l'air d'un champion parce que avant c'était Justin Trudeau. Avant, c'était le gars... Allez voir la vidéo qu'a mis Katy Perry en ligne vendredi.
Oui.
Hey, man, il s'est-tu fait ridiculiser le Justin sautant?
Mais c'était le premier ministre du pays avant.
Oui, oui.
Était-il vraiment le premier ministre? Oui, sur papier, mais en théorie.
Oui,
mais pratique,
dans la tête du monde, c'était lui, là.
Ben oui.
Fait que là, il regarde Mark Carney à côté, 60% se dit satisfait, c'est sûr. Il compare avec le gars qui saute dans la vidéo de Katy Perry.
Imagine Stephen Harper faire ça après son mandat.
Ben non, c'est impossible. En fait, n'importe quel premier ministre, tu dis Stephen Harper, Jean Chrétien.
Ouais.
Parce que t'es premier ministre jusqu'à la fin de tes jours. Je veux dire, conserves le titre. La page. Ben, un peu trop rapidement, mais honnêtement, ça soulève des questionnements sur qui était vraiment en tête du pays. Cet homme-là, honnêtement, gérait le Canada, puis en même temps, on voit la situation du Canada.
Puis on crée au génie partout, là. Nommer un conservateur comme ministre, comme sénateur, pour pouvoir aller déclencher une autre élection, là. Ça, c'était du génie, là, parce que, mais en même temps, y a-tu vraiment besoin de ça? À coup d'élection, à coup de transfuge... Tu sais, les gens qui suivent la politique, eux autres, ils commencent à se sentir floués pas mal, là. Mais que ce soit, on n'est pas assez nombreux. C'est ça qui est lourd aussi, on n'est pas assez nombreux. Ce serait le fun s'il y avait, c'était totalement l'inverse, là, 60% du monde qui se disent insatisfaits. On pourrait peut-être sortir, faire quelque chose, crier à la réélection, mais non, c'est totalement l'inverse. Fait que le gars réussit à renforcer sa majorité. Oubliez ça, là, l'élection, ce sera pas avant... on a encore 3 ans de Mark Carney à subir.
Ah, puis si c'est pas plus par la suite. Le pire, c'est qu'en ce moment, on est en récession, là, qu'on le veuille ou non. Récession technique, appelle ça comme tu veux.
Mais on fait des deals avec l'Europe.
Ah, OK.
Tout va bien. Avec l'Arabie Saoudite.
Ben oui.
Ah, OK, OK.
Ça, tu comprends? Je comprends
pas vite. Je comprends, là, merci tes de
inquiétudes. Je comprends tes inquiétudes, Max, là. Toi, tu dis, voyons, ça allait bien. On faisait affaire avec notre voisin du sud, juste là, là. On a une super longue frontière, la plus longue frontière physique au monde. Mm. Toi, si tu disais, on pourrait continuer, mais non, oublie ça, là.
C'est vraiment une image de politicien de teflon.
Voyons, Max, oublie ça.
Ben, moi, j'ai un petit côté naïf encore. Mais mm-hmm. ben, tout, il coule sur le dos. C'est l'apparence. Il a l'air d'un gars qui maîtrise. Puis il y a une crédibilité aussi à cause de son passage en Europe. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, pendant la campagne électorale, se sont accrochés à ça puis qui n'ont jamais démordu. Puis forcément, ce qu'on nous montre de venant de lui dans les médias, c'est très propagandiste de la part de Radcan, bien souvent. Fait que je pense que ça, joue dans l'imaginaire collectif de la population.
Mais la France, pour expliquer la réaction des Québécois, est simple. Aime bien mieux un déficit que Poiliev. Voilà.
Oui. Oui, puis Poiliev, là, de plus en plus ces temps-ci, commence à être sa balle. Très target, là. Ses réseaux sociaux, je ne sais pas si vous le suivez un peu, il fait beaucoup de vidéos où il ventile notamment les politiques cornistes, appelons-les comme ça, mais aussi le langage des libéraux. Il décortique chacun des mauvais moves des libéraux pour les rendre accessibles au grand public, parce qu'en ce moment, il n'y a personne qui fait ce job-là.
Non.
À part les conservateurs et les médias alternatifs, dans les grands médias, on ne fait pas cette job-là.
Voilà, si vous êtes rassurés, si on est en train de briser vos vacances, je suis désolé pour ça, mais qu'est-ce que tu veux? On fait juste regarder le film de notre premier ministre, puis on vous raconte l'histoire. C'est ça, Mark Carney. Et puis en même temps, c'est ça, les Québécois. Les Québécois votent pour Carney, les Québécois sont fâchés parce qu'il y a du monde qui font de l'argent, puis les Québécois se plaignent à cause du bruit de vos motos. C'est l'effet saillant de la fin de semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 7h52.
Morais! Quelque chose à dire?
Ça va bien aller.
Tu veux réagir? 418-670-9098. Radio X.